Le sujet de ce matin est un sujet pertinent qui est inclus en fait dans le thème de l'épître aux Éphésiens que nous sommes en train d'étudier verset presque par verset, pas toujours, mais on en est à Éphésiens chapitre 6 verset 10 à 20 et le thème en fait d'une série de messages de ce passage concerne le combat du croyant. Et on lit donc en Éphésiens chapitre 6, verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et pourquoi ? Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Prions. Notre Père Céleste, tu nous rassembles encore ce matin autour de ta parole, qu'elle puisse avoir un effet parce que tu as promis d'accomplir tes desseins et que ta parole ne reviendrait pas à toi sans avoir accompli ses desseins. Merci Seigneur de nous transformer, de te glorifier. Merci de permettre que ce message fortifie notre foi, qu'elle soit ferme, inébranlable en Christ. Amen. Donc le sujet, c'est le thème en fait, c'est le combat du croyant. Et on a vu déjà ensemble au verset 10 la puissance du croyant. On a vu l'ennemi du croyant, le diable, ses titres qui nous parlent de sa nature, ses ruses, son armée, et on regardera plus tard ses armes. Mais nous avons décidé de regarder en quelque sorte un annexe, une série de messages concernant les accès possibles que le croyant ou non-croyant peut donner à l'adversaire sur le principe basé en Éphésiens chapitre 4 et verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point et que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Le croyant peut-il donner accès au diable? La réponse est oui, le croyant peut donner accès au diable. Et donc il y a des chemins d'accès que l'ennemi peut prendre afin de paralyser, afin de tourmenter, afin de mettre à bas et le croyant dans sa marche avec le Seigneur. On a regardé ensemble toute une liste basée sur des versets, n'est-ce pas, clairement exprimant ce principe que non seulement la colère peut donner accès au diable, mais on a vu l'indécision qui donne accès au diable, que votre oui, que votre non soit non, le reste vient du malin. On a vu l'idolâtrie, notamment l'amour de l'argent, qui est une cupidité, la cupidité qui est une idolâtrie, mais qui donne accès à l'adversaire. La désobéissance, à l'exemple de Saül, n'est-ce pas, qui a désobéi à la parole de Dieu. Le manque de maîtrise, notamment la tentation. Les pensées, qui restent un domaine dans lequel le croyant lutte souvent et qui pourrait autant être une bénédiction de cultiver la pensée de Christ qu'aussi un piège, une ruse que l'ennemi essaie d'installer dans nos vies par toute espèce de suggestion. Et donc il y a un combat dans les pensées du croyant qui doit apprendre à renouveler son intelligence et donc ses pensées. L'occultisme, et au fond de la salle vous avez une prière de délivrance et aussi une liste de toutes les pratiques occultes qui donnent accès, évidemment, puisque c'est des pratiques occultes qui donnent accès à l'ennemi. On a vu enfin la convoitise de la chair qui donne accès à l'ennemi, le mensonge, l'erreur. Et on regarde, alors on va regarder ce matin, et c'est tout un sujet, le manque de pardon qui peut donner accès à l'adversaire. Et Dieu voulant, si vous voulez prier pour cela, je prépare ce message avec soin, parce que c'est un sujet délicat, mais j'ai remarqué que la blessure psychique, une blessure de l'âme émotionnelle ou des circonstances adverses, une injustice où l'ennemi a pu profiter de circonstances particulières pour attaquer et finalement essayer de laisser cette blessure ouverte, non guérie entièrement, qui devient un accès à l'adversaire. Nous, nous avons décidé de développer ce thème avec la façon suivante, de prendre un texte de base, de prendre l'exemple biblique type, les conséquences et les recommandations, tout en croyant de tout notre cœur, le verset Matthieu 6, 13, qui dit « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin ». C'est ce que vous avez sous les yeux ici, que je viens d'exprimer. Donc, le manque de pardon, c'est une possibilité, n'est-ce pas, qui donne accès à l'adversaire. Et l'apôtre Paul donne un passage ici, qui est un contexte particulier, qui se trouve en 2 Corinthiens 2. Je vous invite à tourner vos Bibles. En 2 Corinthiens 2, versets 5 à 11, on va lire le passage. 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé, si vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. Alors le contexte, c'est un homme qui, dans l'église de Corinthe, a été dénoncé comme inceste. Il couchait avec la femme de son père. Et donc, il a été déclaré inceste. Et l'apôtre Paul demande à l'Église, dans la première épître, de régler ce problème et de discipliner, on n'a pas le temps de regarder le thème de la discipline spirituelle, de discipliner ce frère, parce qu'évidemment, c'est du levain au sein de la pâte et c'est un péché qui devait être jugé. Mais le but de la discipline n'est pas de condamner le pécheur, mais de juger le péché afin que le pécheur se repente. Et l'Église a fait cela. Mais il y a un danger que l'apôtre Paul ici exprime, parce que la réaction des Corinthiens, autant elle était laxiste au départ, autant elle devient quelque part exagérée dans une non-fin de rétablissement du pécheur qui pourtant s'est repenti. Et Paul ajoute donc au verset 7, « En sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner, ce frère qui est tombé dans le péché, et le consoler. » Le but de la discipline n'est pas d'écraser le pécheur. Le but de la discipline, c'est de ramener le pécheur au Seigneur Jésus-Christ et d'être accueilli à nouveau dans l'Église, être pardonné et d'être rétabli dans la communion des frères et des sœurs. Certainement d'être testé ensuite, mais d'être accompagné jusqu'à un plein rétablissement. Et c'est ce que Dieu désire. Ne soyons pas plus exigeants que Dieu lui-même. Lorsqu'un chrétien tombe, Dieu désire qu'il soit rétabli par la repentance, la confession du péché, qui peut être privée ou publique, dépendamment du péché, mais Dieu désire que la personne qui a commis le péché soit rétablie dans l'Église. Et donc il dit, je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant à toutes choses, or à qui vous pardonnez, je pardonne aussi, et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ici le principe, sans entrer dans tout le contexte, malheureusement, quand on prend un sujet qu'on développe, on prend des versets dans différents passages et on n'a pas toujours le temps de développer tout le contexte du passage. Mais le principe est le suivant. L'ennemi peut prendre avantage d'une situation où il y a eu un manque de pardon. Évidemment, dans le contexte ici, c'est un manque de pardon, de rétablissement par rapport à quelqu'un qui a été discipliné. Mais le principe global qu'on peut retenir, c'est que le manque de pardon peut donner un accès à l'ennemi qui va prendre avantage et donc qui va encore plus faire de mal, alors que déjà le mal a été fait par le péché dans le contexte de Corinthiens. Le frère a certainement souffert de son péché puisqu'il s'est repenti, il a reconnu son péché et l'Église en a été attristée et lui avec. et maintenant qu'il a confessé, abandonné son péché, qui est la base d'une vraie repentance, n'est-ce pas ? Alors, il doit être rétabli parmi les frères et sœurs. Et quelque part, c'est un appel à la miséricorde de l'Église. Dieu est plein de miséricorde envers chacun de nous. Si quelqu'un est debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Nous devons veiller à ne pas juger ce qui tombe. Parce que Dieu, dans son plan souverain, désire qu'il se rétablisse. Et donc le rôle de l'Église, c'est d'accompagner ceux qui tombent afin qu'ils abandonnent le péché, qu'ils retournent vers le Seigneur, qu'ils se repentent, mais qu'ils soient à nouveau pleinement accueillis et rétablis dans la communion des frères et des sœurs, et qu'ils ne soient pas inscrits sur le fronto, justement, dont on parlait tout à l'heure, le fronto d'une personne, voilà, j'ai péché, j'ai fait tel péché, et regardez-moi comme quelqu'un qui a fait tel péché toute ma vie. Cela, n'est-ce pas, mettrait de côté toute la miséricorde et la bonté de Dieu. Dieu est amour. Et Satan est l'accusateur des frères qui accuse jour et nuit les enfants de Dieu devant Dieu. Et c'est pour ça qu'on a un avocat auprès du Père Jésus-Christ, 1 Jean chapitre 2, qui plaide jour et nuit en notre faveur. C'est merveilleux cela. Vous vous sentez coupable, peut-être. Vous avez raison de vous sentir coupable. Peut-être pas, parce que l'ennemi, des fois, donne même des sentiments ou des pensées de culpabilité qui sont liées à une fausse culpabilité pour une chose qu'on n'a pas réellement commise. Dépendamment de notre conscience, enfin, sans entrer trop dans la psychologie, certains de nous, nous avons une conscience prohibitive où facilement l'ennemi pourrait nous accuser. Mais si on est vraiment accusé à raison, mais confessons, abandonnons et croyons que Dieu nous pardonne. Donc nous devons penser à vivre la miséricorde de Dieu. Et même si un frère est profondément tombé, voir la possibilité pour le frère ou la sœur d'être rétabli pleinement dans la communion et même, je dirais, dans l'exercice de ministère, sous certaines conditions évidemment, et regard de l'Église et d'une certaine discipline, n'est-ce pas, à exercer. Voyez-vous, le manque de pardon donne l'avantage à l'adversaire. Et cela est vrai pour nos vies personnelles. Lorsque nous ne sommes pas prêts à croire que Dieu nous pardonne et quelque part à nous pardonner nous-mêmes au travers de Jésus-Christ, on donne accès à l'adversaire qui continue à nous accuser. Je me souviens, en tant qu'étudiant, j'avais confessé quelque chose à Dieu, mais ça me tourmentait tout le temps, ça revenait, jusqu'à ce que je comprenne que ça, c'était une fausse culpabilité. Si vos péchés sont comme le cramoisi, Ésaïe 1, verset 18, ils deviendront plus blancs que la neige. C'est merveilleux, la beauté de la neige. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un champ de neige non souillé par la pollution ou quelque saleté, mais c'est vraiment blanc et ça peut être encore plus blanc que ça. Et Dieu dit qu'il oublie nos péchés, qu'il les met au fond de l'océan. Et c'est profond l'océan. On n'a même pas atteint toujours les profondeurs de l'océan. Si Dieu dit qu'il oublie, alors oublions avec lui. Et c'est tout simplement la miséricorde de Dieu. Bien sûr, soyons pas superficiels. Je dis, voilà, j'ai confessé à Dieu, c'est fini. Non, regardons nos cœurs, examinons nos cœurs et nos pensées pour voir si nous sommes vraiment dans les voies de l'éternité, comme disait le psalmiste, mais croyons au pardon de Dieu. Non seulement on doit apprendre à croire au pardon de Dieu dans nos vies, mais aussi à l'exercer pour les autres. On va venir dans des sujets un peu délicats dans un moment, d'accord ? Alors, vous embarquez, ça y est, on parle du pardon de Dieu. Et en fait, ce que recommande Paul, à vous, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi, et c'est en Christ. Non seulement nous devons avoir la grâce de croire au pardon de Dieu, mais aussi la grâce de pardonner aux autres. Alors, nous allons parler du pardon de Dieu. Ici, dans le contexte, la personne qui n'était pas l'objet d'un pardon total de la part de l'Église pouvait tomber dans un piège du diable pour lui-même et aussi l'Église. Car le manque de pardon qui serait fait par l'Église est un piège. Parce que ça prouve que l'Église, à ce moment-là, ne vit pas dans toute la plénitude de la miséricorde, du pardon de Dieu et de la vérité, sans exclure toujours la vérité. Quelqu'un a dit, on ne doit jamais sacrifier la vérité sur l'autel de l'amour. Mais quand il y a amour, alors il y a pardon et miséricorde. N'oublions jamais cela, frères et sœurs bien-aimés. Alors, j'ai une question à vous poser ce matin, et c'est la question de ce matin. Est-ce qu'on vit vraiment un tel pardon dans nos vies et la vie des autres? Il y a ceux qui sont prêts à se pardonner. Parfois à juste raison, mais parfois toujours pas à juste raison. Puis il y a ceux qui traînent à se pardonner, qui se laissent accuser par l'ennemi. Et puis il y a ceux qui ne pardonnent pas aux autres et qui, dans la colère, commencent à avoir de la haine, avoir un esprit de vengeance. Parce que dans le manque de pardon, évidemment, il y a le fait de la frustration, d'un manque de contrôle. Quelque part, c'est la seule ouverture que Dieu nous donne, le pardon, pour être libéré de tout le ressentiment, l'amertume, la rancœur qu'on peut ressentir lorsqu'on a été blessé. Et que la personne ou non nous demande pardon, on doit apprendre à pardonner. J'ai lu un livre sur le pardon, ça fait déjà quelques années, où la personne disait, on ne pardonne que lorsque la personne vient nous demander pardon. Je ne crois pas du tout cela. Je me souviens, bon, je ne voulais pas vous le dire ce matin, mais c'est parti. Je me souviens d'une anecdote quand j'étais pasteur, d'un frère aussi dans le ministère, qui vraiment, pour différentes raisons, je ne vais pas entrer dans les détails, avait blessé plusieurs autres serviteurs, dont je faisais partie. Et vraiment, c'était un contexte difficile, et je trouvais ça très pénible. Croyant voir presque un père spirituel, un modèle, etc., une déception et une souffrance intérieure, et je n'étais pas le seul serviteur en formation à ce moment-là. Et j'ai dû apprendre la leçon suivante. Pardonner, c'est commencer de prier. Et j'ai commencé à prier pour la personne. J'ai commencé à l'aimer en priant comme Dieu l'aimait. Et à pleurer pour la personne, imaginez. Et quand cette même personne a traversé des dures épreuves, Dieu a rempli mon cœur de compassion. Et mon oreille était attentive à entendre ce qu'il vivait, sans aucune rancœur, mais en étant plein de compassion pour cette personne, ce serviteur bien-aimé. Parce que personne n'est parfait. Donc le pardon, c'est une vraie délivrance. Lorsqu'on ne pardonne pas, on n'est pas libéré. Et le pardon vient de Dieu. Non seulement on a besoin du pardon de Dieu dans nos vies, mais on a aussi besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir pardonner aux autres. Donc on va définir, selon ce que dit le grec, le mot pardonner. On va regarder ensemble qu'est-ce que le pardon de Dieu, dont je vous ai déjà lu le passage ici. On va regarder ensemble qu'est-ce que le pardon de Dieu, comment Dieu pardonne-t-il et comment appliquer le pardon de Dieu entre nous. Bon, on va voir si on va jusqu'au bout. En fait, il y a plusieurs mots grecs pour le mot pardonner. Mais c'est intéressant, c'est qu'il y a un mot qui s'appelle charizomai, qui est souvent employé dans le Nouveau Testament, et qui a pour racine grecque, peut-être que certains connaissent au moins ce mot-là, grec, charis. Alors, le mot charis, on parle du mouvement charismatique, les dons. Mais le mot charis veut dire joie ou grâce. Parce que tout don, en fait, est une grâce. Donc, on est tous des charismatiques si on est gracié. Rectifions le tir sur l'étymologie du mot. Et c'est un mot, charis, qui signifie non seulement donc joie, grâce, la bonté, la bonne volonté, la faveur, la bonté miséricordieuse avec laquelle Dieu, exerçant sa sainte influence sur les âmes, les tourne vers Christ. Donc, la grâce qui nous amène à Christ. Le fait d'être fortifié dans notre foi chrétienne, ce qui résulte de la grâce, le signe ou la preuve de la grâce, le bienfait, etc. La largesse, et puis Louis II, dans sa traduction, le traduit comme ceci, rendre, mettre une dette, accorder, entre parenthèses, une grâce, donner par grâce, pardonner, faire grâce. Pardonner, c'est faire grâce. C'est-à-dire que si la personne vous a blessé, et si même si elle ne vous demande pas pardon, pardonner, c'est faire grâce, lui pardonner malgré que la personne ne soit pas repentie de la blessure qu'il vous a causée. Ça ne veut pas dire être, mettre la vérité de côté. Une grâce est un don immérité, c'est-à-dire que par nous-mêmes, bien-aimés, nous n'avons aucune puissance de pardon. Je vous avais cité le mensonge de Cahuzac et la réaction de Hollande qui a dit « c'est une faute impardonnable ». Mais qui sommes-nous pour dire de quelqu'un d'autre qu'il a fait une faute impardonnable ? C'est un langage humain, on s'entend. Mais sur le plan théologique, Dieu peut pardonner n'importe quel péché, même le plus horrible. Il n'y a qu'un seul péché impardonnable, c'est de refuser l'action du Saint-Esprit en nous pour recevoir Jésus-Christ. C'est ça le péché qui amène en enfer. C'est le seul péché qui amène en enfer de ne pas croire au pardon de Dieu à la croix. C'est de rendre la croix vaine. C'est de dire non, Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, Jésus-Christ n'est pas mort pour les péchés. Je n'ai pas besoin de croire en lui pour être sauvé. C'est le seul péché qui perd. Tous les péchés sont pardonnables. Les plus grands, il y a des criminels, des voyous, des délinquants, des gens qui se sont convertis par la grâce de Dieu, pardonnés, lavés. C'est merveilleux la dimension du pardon de Dieu. Et c'est lié à sa grâce. Donc, faire grâce, c'est se montrer gracieux, aimable, bienveillant. Et des fois, c'est par notre attitude, et c'est là qu'est le défi du croyant. C'est l'attitude intérieure qui va faire qu'en pardonnant, on gagne le cœur de l'autre. Je ne peux pas vous raconter toute ma vie quand même. Mais une personne où j'ai eu vraiment du mal dans ma famille, parce qu'après ma foi, elle m'a tellement... je vais dire le mot persécuté. Pour moi, c'était difficile et j'ai mis des années, ceux qui me connaissent en famille savent ce que j'ai vécu, et j'ai dû apprendre à aimer la personne et à pardonner. Mais savez-vous quoi? La personne a changé le jour où moi-même j'ai changé. Et j'accusais toujours l'autre, jusqu'au le Seigneur m'a dit, mais écoute, prie, mets-toi à genoux, humilie-toi et demande la grâce d'aimer. Parce que pardonner, c'est aimer, et le manque de pardon, c'est un manque d'amour et de miséricorde. Vous avez retenu cela? Retenons cela dans nos vies. Alors le pardon de Dieu, il est extraordinaire parce qu'il a commencé déjà dans son cœur lorsque Adam et Ève ont chuté. Et en Genèse 3,15, il est déjà question d'un rédempteur. Il est question de Jésus-Christ qui allait venir sur la terre juste après la chute d'Adam et Ève. Dieu a planifié un rédempteur, quelqu'un qui rachète, qui pardonne les péchés. Donc dans le cœur de Dieu, le pardon est quelque chose qui fait partie de sa nature, de ses attributs. Dieu est amour et il veut pardonner. En fait, le mot pardon, sous toutes ses formes, se trouve à peu près 192 fois dans la Bible. Dieu aime et Dieu veut pardonner. Il prend plaisir à la miséricorde. Je vous ai lu ou récité par cœur tout à l'heure ce merveilleux verset en Éphésiens 1, verset 18, qui nous fait tellement de bien le moment où on se tourne vers le Seigneur. Comme ça, l'accusateur est vaincu. La Bible dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. » Quelle belle assurance du pardon de Dieu. Et je veux ajouter que le pardon de Dieu, il est instantané. Combien faut-il faire de prières pour être pardonné de Dieu? Combien faut-il faire d'œuvres de pèlerinage et toutes sortes de choses pour être pardonné? Zéro. Il suffit de croire. Certes, ça n'empêche pas de prier, mais il y a un exemple tellement merveilleux, vous avez déjà peut-être anticipé l'exemple des deux brigands sur la croix. Les deux, il nous est-il dit, parce qu'on ne croit pas que les deux évangiles qui citent le récit se contredisent, n'est-ce pas? En Matthieu, il est écrit, les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Mais un peu plus loin, en Luc, il est écrit, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait. Ah tiens, Il a changé d'avis. L'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. » Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Au moment de la mort, il suffit juste d'un regard vers Jésus à la croix pour être pardonné, pour être sauvé. C'est merveilleux cela. Le brigand de la croix, crucifié comme Jésus-Christ dans des souffrances terribles, n'a pas pu se libérer de la croix, aller dans quelque église, se faire baptiser, devenir membre d'une église ou faire des œuvres pour plaire à Dieu. Il a simplement jeté un regard sur Jésus-Christ et cru de tout son cœur à Jésus pour être sauvé. Et c'est ce que le diable essaie de rendre le plus confus possible. Le salut, c'est un don gratuit de Dieu. Et le diable essaie de compliquer le chemin qui mène à Dieu par toute espèce de religion, de choses que l'on invente de son propre cœur ou inspiré par le diable pour essayer d'atteindre Dieu, alors qu'il n'y a qu'un seul chemin pour atteindre Dieu, c'est Jésus-Christ. Et nous qui le connaissons humblement, nous pouvons tellement être reconnaissants de connaître le pardon de Dieu, d'être pardonné. Je me souviens quand, bon, encore une anecdote, mais tant pis, c'est parti. Quand j'étais jeune, j'étais élevé dans une religion, on allait se confesser donc à un prêtre, j'étais élevé au Caousou ici, quelques années, et je me souviens avoir confessé quelque chose, tout petit, et j'étais joyeux dans le couloir, après être sorti du confessionnal, je ne sais pas, ma conscience était à nouveau purifiée jusqu'à ce que je recommence la même chose. Je n'avais jamais la conscience pure et purifiée complètement. C'est la différence entre se confesser à quelqu'un et se confesser à Dieu. Si nous nous confessons à Dieu, si nous confessons nos péchés à Dieu, la Bible dit qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. Non seulement nous sommes pardonnés, mais il nous donne la puissance de vivre une vie sainte qui fait que maintenant on a la puissance de ne plus demeurer dans le péché. C'est toute la différence entre pratiquer une religion et être en relation avec Dieu et connaître vraiment son pardon. Et puis la Bible dit que son pardon est total. À Michée, je vous lis le texte, il est écrit « Quel Dieu est semblable à toi? Qui pardonne l'iniquité? Qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours. » D'ailleurs, l'héritage, c'est Israël, mais je ne peux pas m'empêcher en faire une analogie avec l'Église. L'Église, au travers des siècles, a connu des retraits, des éloignements de Dieu terribles. Et Dieu a suscité, heureusement, des hommes de Dieu, mais des réveils spirituels qui ont ramené son héritage, parfois bafoué par les hommes, vers la vérité et le réveil spirituel. Dieu est fidèle, c'est ce que je veux dire. C'est ce que le texte nous parle ici. Il ne parle pas, il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde, il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Quelqu'un peut vous dire « je te pardonne », mais si c'est par Dieu qui pardonne, on a toujours mauvaise conscience. Troisièmement, le pardon de Dieu est gratuit et éternel, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors si on étudiait le mot « justifié »,« gracié », »,« racheté », on trouve le pardon de Dieu. Et c'est gratuit. Le pardon de Dieu est gratuit. Le pardon de Dieu est généreux. La Bible dit à propos de la charité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Dans le sens de supporter, c'est ne pas comptabiliser ou soupçonner le mal, c'est ne pas comptabiliser les maux qu'on nous a faits, mais de les pardonner. Il y a des gens qui par amertume marquent tout le mal qu'on leur fait. C'est peut-être pas marqué sur un cahier, mais dans leur esprit. Et quand ils voient les autres, ils voient les personnes au travers de toutes les choses négatives qu'ils ont subies à cause d'elles. Mais ça, ce n'est pas le pardon, ça. Son pardon est généreux, puis son pardon a une source. C'est toujours la personne de Dieu. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est merveilleux, ce passage. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Sachez donc comme frère, disait Pierre, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Au Moyen-Âge, les gens se flagellaient dans les rues avec toutes sortes de, d'instruments de torture, d'autoflagellation, pour espérer gagner le ciel et le pardon de Dieu, alors que Jésus a tout gagné à la croix. Je ne sais pas si on se rend compte ce matin du privilège que nous avons. Oui, Jésus m'a pardonné, parce qu'à la croix, c'est lui qui a gagné mon pardon. Ce n'est pas moi qui ai gagné mon pardon. Et en Ésaïe, il y a un avertissement que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Le pardon a pour base le sang et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang et sans effusion de sang. Il n'y a pas de pardon. Son pardon est auprès de lui, mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Et puis Dieu pardonne sur la base de notre foi, à l'exemple de celui qui est malade en Jacques chapitre 5 et qui appelle les anciens. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, que les anciens prient pour lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ça ne veut pas dire qu'à la maladie il y ait le péché. Mais l'idée ici, c'est que lorsqu'on a la foi pour être pardonné, on peut aussi être guéri. En tout cas, Dieu nous appelle à avoir la foi pour être guéri, mais ça peut inclure le pardon s'il y a eu péché. Et puis enfin, un pardon, je ne pouvais pas ne pas le citer, le pardon collectif de la part de Dieu sur tout un peuple qui amène le réveil spirituel. C'est la visitation de Dieu parmi nous. Et la Bible dit, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Est-ce que vous me donnez un petit peu encore de temps pour terminer mon message? Oui? L'apéro est dans un quart d'heure, on a un peu de temps, non? Bon. Je voudrais que vous tourniez, j'aimerais terminer avec une grande vérité, sinon il faut le reprendre, ce ne sera pas le même impact, je pense. Pouvez-vous tourner dans vos Bibles en Matthieu chapitre 18? Alors vous me pardonnez d'être un peu long ce matin, quoiqu'on a commencé un petit peu plus tard, hein, mais il y avait beaucoup de choses ce matin au culte, et donc vous me graciez, c'est merveilleux. Et je m'autogracie à l'instant, vous avez remarqué. Bon, Matthieu 18. Voilà un homme impulsif. Voilà un homme qui veut comprendre ce qu'est le pardon. Et il est vivant, hein, il est vif d'esprit, notre ami Pierre, dans les évangiles. Verset 21, Matthieu 18, verset 21. Je lis tout le texte jusqu'à la fin, d'accord? Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi, sera jusqu'à 7 fois ?» Puis pour Pierre, 7 fois, c'était le top du top. Il ne faut pas aller plus loin, parce que là, ça devient impossible. Qu'est-ce que Jésus lui répond dans sa douceur? Jésus lui dit, « Je te ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois, 490 fois. » Avez-vous déjà pardonné à une personne 490 fois? Jésus, il a plaisanté un peu avec Pierre. Il a dit, écoute, tu dis 7 fois, moi je dis 490. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite au pardon. Retenons cela d'abord. Il n'y a pas de limite au nombre de fois pardonnées. On vous offense une fois, alléluia. 2 fois, alléluia. 3 fois, alléluia Seigneur. 4 fois, oh là là Seigneur, enlève cette personne devant moi. Mais non, alléluia Seigneur. C'est la grâce de Dieu qui est suffisante, disait l'apôtre Paul. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi, histoire intéressante, qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Retenez le chiffre, 10 000. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa là et lui dit, il lui remit la dette. 10 000 talents. Waouh, toute une fortune. Hein. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait combien? Ah tiens, lui aussi on lui doit quelque chose. Comment va-t-il réagir? Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disait « Patience envers moi et je te paierai ». Mais l'homme ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et voilà la conclusion spirituelle que Jésus donne à cette histoire. « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Notre Père qui est aux cieux, et plus tard, pardonne-nous à nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est Jésus qui l'a enseigné. Alors c'est intéressant ça. Bon, à l'époque de la Bible Scofield, des commentaires, un talent valait 2100 dollars américains et le denier 35 centimes. Bon, je n'ai pas fait les calculs, etc. Mais le talent valait 6000 deniers. Donc, si on fait le calcul ici, on y va. Vous avez sous les yeux. Ça veut dire que 10 000 talents, où chaque talent vaut 6 000 deniers, ça fait 60 millions de deniers, soit une dette que l'autre serviteur qu'il a rencontré, celui qui avait été gracié, la dette du premier serviteur était 60 000 fois plus grande que la dette après qu'il refuse de couvrir. Mais quelle est la leçon spirituelle de cela? C'est que Dieu nous dit, pardonnez-vous réciproquement. En Éphésiens 4, 32, il dit, soyez bons les uns vers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Christ vous a pardonné. Voilà la leçon. Combien Christ m'a pardonné? Des millions de fois plus que tout ce que je pourrais pardonner à n'importe qui. Parce que de nature, je suis un pécheur qui était en route pour l'enfer. À cause de la pratique du péché, à cause de mes péchés, et Dieu m'a gracié pour chacun qui avons accepté Jésus-Christ. Et la dette que Dieu a couvert pour nous, c'est une dette, mais infinie. Alors si quelqu'un a une dette envers nous, et que nous ne lui pardonnons pas, nous ne sommes pas en train de pratiquer la bonté de Dieu. Soyez bons les uns envers les autres. Ce que je veux dire par là, et c'est dur à entendre ce que je veux dire, le manque de pardon, c'est de la méchanceté, parce que c'est un manque de bonté et de compassion. Le premier maître était plein de compassion à cause du cri du serviteur, une dette mais colossale, 10 000 talents, où chaque talent valait 2 000 dollars il y a des années. Bon, bref, c'est la proportion, vous comprenez. C'était énorme comme dette. Il a eu pitié. Et l'autre, il rencontre une personne sans denier, 3,50 $. Il dit, là, en prison, ta dette est énorme envers moi. Mais voyez l'égocentrisme du serviteur, incapable de pardonner comme il a été pardonné. Et Dieu dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Lorsqu'on ne pardonne pas, on manque d'amour, de bonté envers les autres. Corinne ten Boom était une Hollandaise qui, vous savez, la famille recevait des Juifs chez elle, elle les cachait. Elle et sa sœur ont été placées dans un camp de concentration. Une des deux est décédée dans ce camp de concentration et Corinne ten Boom a gardé la vie et finalement a témoigné de sa foi dans des conférences partout, même en Allemagne. Et à la fin d'une de ces conférences où elle témoignait de sa foi, de la grâce du Seigneur dans sa vie, un homme s'est approché d'elle. C'est une histoire véritable. Hein? Et à la sortie, il a dit, « Madame, seriez-vous prête à me pardonner ?»« Bah, de quoi ?»« Mais madame, j'étais un de vos bourreaux. » Puis elle l'a reconnu. Et là, elle a eu un sentiment terrible à l'intérieur. Maintenant, il faut que je pratique ce que je dis. Hein. Et ça a été dur pour elle. Mais parce que ses yeux étaient fixés sur le Seigneur, rempli du Saint-Esprit, elle lui a pardonné, elle l'a pris dans ses bras, elle dit, je vous pardonne. Cet homme avait besoin d'être pardonné. On raconte l'histoire d'une petite fille qui, dans les pays de l'Est, du temps de la persécution, les pays communistes, ses parents étaient en prison et elle visitait ses parents. Et finalement, un jour, elle a amené un bouquet de fleurs au bourreau de ses parents, au geôlier, en disant, Dieu m'a appris, au travers de ce que j'ai reçu de mes parents, à aimer mes ennemis. Et je vous pardonne de ce que vous faites à mes parents. Le monsieur, le geôlier, a été tellement bouleversé qu'il s'est converti. Et lui-même s'est retrouvé en prison à cause de sa foi. C'est une histoire véritable du pasteur Von Braun. Une histoire qui nous a bouleversés, ma femme et moi, c'est une dame qui s'appelle Avia, chilienne, rencontrée au Québec, de notre église, qui est mariée à un Québécois, non chrétien, mais qui a fait une faute. Elle est arrivée infirmière, à Québec, et jeune, bon, elle est tombée amoureuse, et puis elle a eu une relation sexuelle, et elle est tombée enceinte. Et il y a une missionnaire, méfiez-vous des missionnaires, hein ? Non, je plaisante. Il y a une missionnaire très conservatrice, légaliste, qui est venue lui dire, tu ne peux pas garder ce bébé, c'est le fruit du péché. Vous vous rendez compte ? Tu ne peux pas, et une dame avec une autorité spirituelle imposante, qui avait été sage-femme en Afrique pendant des décennies, ce n'était pas n'importe qui, elle a dit, tu ne peux pas garder ce bébé, tu dois le faire adopter. Elle a résisté, elle a gardé le bébé, puis elle s'est mariée avec ce Québécois, qui après des années a fréquenté l'église. Je ne suis pas sûr s'il est encore converti ou non. Mais ceci dit, quand nous sommes arrivés pour prendre la petite église où Dieu nous a envoyés à Québec, cette dame avait cette blessure dans son cœur. La confiance qu'elle avait mise en des personnes avait été rompue, puis elle avait cette blessure. Et elle a dû apprendre, je me souviendrai toute ma vie, à pardonner. Et elle avait refusé d'être baptisée à cause de cela. Et le jour où elle a pardonné à ces gens qu'il avait maladroitement conseillé, alors sa vie a été transformée. Puis elle a décidé de passer par les eaux du baptême, d'obéir au Seigneur. Et puis elle a pu encore plus être tendre envers son mari pour l'amener au Seigneur. Alors, il y a des blessures parfois profondes. Il y a un autre exemple dans la Bible. Vous vous souvenez, Joseph ? Vendu par ses frères à 17 ans. Ils avaient failli le tuer d'abord. Puis c'est un des frères qui a dit « Non, non, on va le vendre. » Finalement, il était vendu. Un autre voulait lui sauver la vie. Ceci dit, il a été vendu. À 39 ans, 22 ans plus tard, ses frères, à cause de problèmes de famine, sont venus le visiter, etc. Puis finalement, bon, je voulais lire les passages, mais l'heure est un peu tardive, mais vous les lirez en Genèse, chapitre 45 et 50. À un moment donné, Joseph dit carrément à ses frères, et il a 57 ans à ce moment-là. Je vais au moins vous lire le verset. Moi, c'est quelque chose que je trouve bouleversant. Parce que Joseph, à cause de cette injustice qu'il a vécue, de la jalousie de ses frères, il a été vendu, il a été fait prisonnier. Ensuite, on l'a accusé injustement, vous connaissez la femme de Potiphar. Potiphar l'a envoyé en prison, et puis finalement, il a été élevé. Mais pendant tout ce temps-là, il aurait pu ruminer contre ses frères. Je vais me venger, parce que le manque de pardon amène la colère, et la colère amène la vengeance. Et la vengeance est un péché, il faut le dire comme c'est. Et Joseph avait pardonné, et avait vu les desseins de Dieu en disant, mais si ce n'était pas un temps comme cela pour lequel Dieu a permis cela, pour que je puisse vous aider. Et il a pardonné à ses frères. Alors, à la fin de sa vie, enfin à 57 ans plutôt, excusez, il dit, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola. Et en parlant à leur cœur. C'est lui la victime, c'est lui qui console les autres. Mais savez-vous quoi ? Ils ont eu tellement peur qu'ils ont inventé, ils ont dit, mais est-ce que notre Père veut que tu nous pardonnes, qu'on ait l'assurance qu'il n'y aura pas des conséquences de notre injustice ? Et Joseph a pardonné entièrement. Il avait 17 ans quand il a été vendu, 39 ans quand il a vu ses frères venir en Égypte, 57 ans quand officiellement il leur dit « voilà, je vais m'occuper de vous ». Il est mort à 110 ans et dans toute son histoire, il n'est jamais dit qu'il s'est vengé contre ses frères. C'est ça le pardon total. Et Joseph, bien-aimé, est un type de Jésus-Christ. Lorsque Jésus nous pardonne, il nous pardonne entièrement, totalement, éternellement. Parce qu'il vit à jamais. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, en résumé, on a appris ce matin, ou on a rappelé, il faut que je retrouve mes notes un petit peu, de PowerPoint. Bon, que pardonner, c'est un péché. Ne pas pardonner, c'est un péché, je m'entends. Ne pas pardonner de tout son cœur, c'est un péché que Dieu châtie. Et c'est un manque d'amour. D'où le défi personnel, et je voulais arriver à cela. Avez-vous déjà accepté le pardon de Jésus-Christ dans votre vie pour être sauvé? Peut-être que quelqu'un ici ce matin n'a pas l'assurance du pardon de Dieu, de la vie éternelle. Alors, priez dans votre cœur, recevez Jésus-Christ. Vous venez nous trouver, on va vous aider à faire ce pas de la foi. Mais pour nous croyants, quelque chose peut-être de très difficile à l'instant, et pour ça je voulais terminer avec cela, y a-t-il une personne ou plusieurs personnes liées à un événement ou à plusieurs événements à qui vous n'avez pas encore réellement pardonné? Je ne vous demande pas si vous avez eu le sentiment, la volonté, le désir, mais avez-vous réellement pardonné? Parce que le pardon libère. Et tant qu'on n'est pas libéré, on revient sur la chose, on en reparle, on parle de notre blessure, on rouvre notre blessure, et finalement, ça prouve qu'elle n'a pas été cicatrisée. Alors pensez peut-être à un ami, un parent proche. C'est très difficile d'avoir été blessé par ce que nous aimons le plus. Ça peut être même un enfant de Dieu, parce que nous chérissons les enfants de Dieu, mais quand un enfant de Dieu nous blesse, que nous avons aimé pendant des années, c'est très dur. C'est très dur. Et nous devons pourtant apprendre à pardonner. Alors que ce soit un ami, un croyant, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un père, une mère. Je ne peux pas entrer dans tous les détails, mais j'ai eu des confessions comme pasteur de jeunes qui ont dû pardonner à des pères, des mères, des choses très difficiles. Mais après, ils ont été libérés. Un voisin, un collègue de travail. J'aimerais qu'on termine dans un moment de recueillement. Et que l'on prie le Seigneur, s'il vous plaît. Notre Père, tu nous as appris dans la prière de Jésus-Christ, modèle pour nous de pardonner à ceux qui nous ont offensés, comme tu nous as pardonné, et nous confessons parfois que nous sommes si lents à pardonner, parce que nous manquons d'amour. Nos cœurs sont méchants, pleins de colère, et nous ne savons pas pardonner. Et pourtant, tu nous as appris le pardon. Alors, Seigneur, tu nous as graciés. En l'instant, je te demande s'il y a un frère ou une sœur qui a besoin de pardonner à quelqu'un dans sa vie. Un père, une mère, un frère, une sœur, un croyant, un ami, un voisin, peu importe, Seigneur. Je prie que ce message ait pu nous faire du bien ce matin, nous rappeler la nécessité de pardonner pour ne pas donner accès à l'ennemi. À l'amertume, à la rancœur, à la colère. Seigneur Jésus, tu nous as graciés. Alors fais-nous la grâce de gracier ceux qui nous ont offensés. Et nous le croyons que ce don de la grâce est pleinement suffisant pour pardonner. Alors là où nous sommes, chacun de nous, baissons la tête, fermant les yeux et confessons à Dieu peut-être un manque de pardon dans telle ou telle situation, et prions Dieu de tout notre cœur. Seigneur Jésus, aide-moi à pardonner, à aimer comme tu m'as aimé, à pardonner comme tu m'as pardonné. Fais-le au travers de moi, comme un don de ta pure grâce, comme un don qui vient de toi, Père. Tu es un Dieu d'amour en Christ. Je pardonne maintenant. Et je vis vivre ce pardon. Mes pensées, mes paroles seront le reflet d'un véritable pardon, parce que tu m'as pardonné. Et je pardonne sans reproche, comme toi tu es sans reproche pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, toute connaissance, garde vos cœurs, Vous pensez en Christ. Le Seigneur vous bénisse.